Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonjour, incroyable, bonsoir, quel plaisir de vous retrouver en direct, mesdames et messieurs, alors que les manifestants se pressent devant les grilles de l'Élysée pour acclamer le nouveau gouvernement tant attendu. Tout le monde le voulait, vous le vouliez, on le voulait tous. Soyez les bienvenus, on a un gouvernement Bayrou, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. On va regarder ensemble cette composition. Quelle aventure, mes amis, que de nouveautés, que de stupéfaction et d'engouement, encore une fois, pour ce nouveau gouvernement. Nous, on était là, on était avec le petit chat. Ça va, le petit chat? Ah, il est en train de foutre le bordel dans mes plantes derrière. Tu peux éviter. Il est en train de tout péter. Le chat est en train de tout péter. On était tranquillement en train de faire une sieste avec le chat. Et il s'est mis à sauter partout. Le petit chat, il a commencé comme un déglingo. Vraiment, il m'a sauté sur la tronche et tout. Du coup, ça m'a réveillé. Je me suis dit, qu'est-ce qui lui prend et tout. Puis j'ai regardé mes notifs et j'ai vu qu'on avait un gouvernement. Ah bah c'est pour ça. Mais c'est pour ça. Tu viens de dire bonjour, Milo? Tu viens de dire bonjour? Bon, il viendra dire bonjour quand il aura envie. Incroyable, incroyable. Il est tout fou. Il est tout fou là depuis 20 minutes qu'on a un gouvernement, il pète un plomb. Je le comprends. Moi, je suis comme lui. Intérieurement, je suis encore en train de me réveiller de ma sieste là, je vous avoue, mais intérieurement, je suis tout fou fou. On a un gouvernement Bayrou. Va falloir les apprendre, hein, les ministres, les enfants. Hein. J'espère que vous êtes contents. Je vous rappelle que si on n'était pas en France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Alors, estimez-vous heureux. Je suis très énervé. Ah oh mais t'énerve pas, c'est Noël. C'est Noël, c'est l'esprit de Noël. Tu sens pas ce petit parfum familial? Ça sent les marrons chauds là un peu. Non, tu... On est ensemble, ça va bien se passer. Un gouvernement de stars, un gouvernement de personnalités, comme voulu par le Premier ministre François Bayrou qu'il avait annoncé il y a quelques jours. Alors... On va regarder ensemble la composition du gouvernement. Vous savez que l'usage, la tradition, veut que la composition du gouvernement soit annoncée par le secrétaire général de l'Élysée. Pourquoi? Je sais pas. C'est vraiment une tradition à la con. Mais on a toujours fait comme ça. Donc on continue à le faire. Ça pourrait être un simple communiqué de presse, mais on préfère laisser les journalistes se les peler dans la cour d'honneur de l'Élysée en attente de l'arrivée du secrétaire général de l'Élysée qui vient égrener la liste de manière très protocolaire et froide des membres du gouvernement. On va donc regarder ensemble la vidéo du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. Alexis Kohler, qui nous présente ce gouvernement. Vous verrez que lui aussi, il est enjoué. Hein. Lui aussi, on sent que... Il est comme un ouf. Hein. Il est complètement comme un ouf. Alexis Kohler. Et dites-vous, chers amis, que l'Élysée, en ayant tellement rien à branler, que... en fait, la vidéo, elle commence pas au tout début. En fait, ils ont raté. Eux-mêmes, ils s'y attendaient pas, en fait. Je crois que le service vidéo de l'Élysée, ils s'y attendaient pas au gouvernement. Du coup, ils étaient en mode oh, « Merde, putain, putain, il y a Alexis Kohler, vite, vite, lance le rec, lance le rec, lance le rec !» Donc, ils ont lancé le rec, mais un peu trop tard. Donc, ça commence pas directement avec, je crois, le Premier ministre. Premier ministre François Bayrou, ça on le sait, mais dans l'ordre protocolaire, la première ministre qui l'annonce, c'est Elisabeth Borne, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale. Donc vous n'entendrez pas Alexis Kohler vous annoncer le retour d'Elisabeth Borne au gouvernement. On commence directement avec la suite du programme. Que du lourd, que du lourd, que du lourd, que du lourd. Préparez-vous, que du lourd. Attention, vous êtes prêts. Alexis Kohler, attention, incroyable. Accrochez-vous bien, accrochez-vous bien. Hein. C'est parti.
Monsieur Manuel Valls, ministre d'État, ministre des Outre-mer. Monsieur Gérald Darmanin, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur Bruno Retailleau, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Monsieur Éric Lombard, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Monsieur François Rebsamen, ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche. Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Monsieur Laurent Marcangeli, ministre de l'Action publique, de la Fonction publique et de la Simplification. Madame Marie Barsac, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Sont nommés ministres auprès des ministres de plein exercice. Auprès du Premier ministre, Monsieur Patrick Mignola, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Madame Aurore Berger, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Madame Sophie Prima, ministre déléguée, porte-parole du gouvernement. Auprès de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur Philippe Baptiste, ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Monsieur François-Noël Buffet. Auprès de la ministre du Travail, de la Santé, de la Solidarité et des Familles, Madame Astrid Panossian-Bouvet, ministre chargée du Travail et de l'Emploi. Monsieur Yannick Neuder, ministre chargé de la Santé et de l'Accès aux Soins. Madame Charlotte Parmentier-Lecoq, ministre déléguée chargée de l'Autonomie et du Handicap. Auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Madame Amélie de Montchalin, ministre chargée des Comptes publics. Monsieur Marc Ferracci, ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie. Madame Véronique Louwagie, ministre déléguée chargée du Commerce, de l'Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Économie sociale et solidaire. Madame Clara Chapaz, ministre déléguée chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique. Madame Nathalie Delattre, ministre déléguée chargée du Tourisme. Auprès du ministre des Armées, Madame Patricia Mirales, ministre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants. Auprès du ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, Madame Valérie Létard, ministre chargée du Logement. Monsieur Philippe Tabarot, ministre chargé des Transports. Madame Françoise Gatel, ministre déléguée chargée de la Ruralité. Madame Juliette Méadel, ministre déléguée chargée de la Ville. Auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l'Europe. Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre délégué chargé du Commerce extérieur et des Français de l'étranger. Monsieur Thani Mohamed Swalihi, ministre délégué chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux. Le président de la République réunira l'ensemble des membres du gouvernement pour un Conseil des ministres qui se tiendra le 3 janvier à 10h. Je vous remercie.
Crépusculaire, l'ambiance de cette annonce de gouvernement par Alexis Kohler. Crépusculaire, la lumière. Attends, reviens Alexis, reviens, bouge pas. Est-ce qu'on peut parler de cet éclairage? Est-ce qu'on peut parler de que vraiment l'Élysée, ils en ont plus rien à foutre. Hein. Ils savent que c'est pas la joie. Ils se sont dit, tu sais quoi, on va pas mettre de lumière. On va se faire une ambiance un peu sombre là. On va se faire en sorte que le mur derrière, il soit plus joyeux que la tronche d'Alexis Kohler. Voilà. C'est vraiment jusqu'au bout. Ambiance délétère. Ambiance délétère dans cette annonce de gouvernement. Nous avons donc un gouvernement, François Bayrou, mesdames et messieurs. Je vous rappelle, quand même, je rappelle hein, que le gouvernement de François Bayrou est un prétendant au world record du speedrun du gouvernement le plus rapide de l'histoire. Hein. Parce que Barnier a mis la barre assez haut, faut le rappeler quand même. Hein. Barnier, ça a été quand même quelque chose d'assez spectaculaire. D'ailleurs, on peut féliciter le runner Michel Barnier, qui allait très vite. François Bayrou est un challenger. François Bayrou est en passe, peut-être, de battre le record de Michel Barnier. Voilà quoi. Bayrou pour le NI%. Bayrou pour le NI%. Là, Bayrou, en tout cas, c'est carré. En tout cas, si c'est le record qu'il veut, moi, je suis un observateur avisé, je peux vous dire que c'est un prétendant sérieux pour le record. Par où on commence, mesdames et messieurs, dans ce gouvernement? Alors, j'espère que vous aimiez bien Emmanuel Macron 2017, hein, parce que là, il y a que du Macron 2017. Hein. Enfin, c'est quand même assez spectaculaire. Hein, c'est... En termes de, on bouge pas trop, on change rien, on garde les, on sait même pas, on garde les mêmes et on recommence. Si on reprend les anciens, nous avons donc le retour d'Elisabeth Borne, mesdames et messieurs, Elisabeth Borne, l'ancienne première ministre qui a été l'autrice du projet de loi de réforme des retraites en 2023, avec son célèbre 49-3, Elisabeth Borne qui revient au gouvernement. Entre-temps, elle avait challengé Gabriel Attal pour la prise de la présidence du parti Renaissance. Finalement, ils ont trouvé un accord avec Gabriel Attal, donc il n'y aura pas de, y a pas eu de baston entre les deux. Hein. Gabriel Attal a été élu largement parce qu'il était le seul candidat en lice. Elisabeth Borne revient au gouvernement. Autant vous dire que c'est un gouvernement qui a quand même assez peu de chances de revenir sur la réforme des retraites. Hein. Enfin, je veux dire. Visiblement, dans les négociations avec la gauche, François Bayrou avait émis l'hypothèse qu'éventuellement, peut-être, on pourrait revenir sur la réforme des retraites, moyennant l'ouverture de négociations avec les partenaires sociaux, etc., en mode why not, pourquoi pas, on verra. Mais si tu le sentais pas très chaud, mais alors là, Elisabeth Borne dans le gouvernement, c'est dead. Elle ne va jamais accepter d'être dans un gouvernement qui revient sur sa réforme à elle, elle qu'en a sué sang et eau pour y arriver. Donc bon. Et ensuite, pour votre plus grand plaisir, mesdames et messieurs, nous avons le retour de Manuel Valls au gouvernement. Manuel Valls au gouvernement. La gauche revient aux responsabilités en France. Pour la première fois depuis 2017, Manuel Valls rentre au gouvernement. Stupeur au Parti socialiste, à mon avis, ce soir, réunion de crise du groupe socialiste. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas censurer Manuel Valls. Vous vous rendez compte quand même? Merde, Manuel Valls. Oh là là, c'est compliqué. Qu'est-ce que... Oh là là, ça va être... Oh là là, hein? Bon, merde. Voilà, terrible. Non, 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 la gauche est circonspecte, hein. La gauche est circonspecte, Manuel Valls, bon, voilà. Quoi vous dire? Manuel Valls qui faisait des pieds et des mains pour revenir au gouvernement depuis 2017. Je rappelle quand même que Manuel Valls a spectaculairement quitté le Parti Socialiste en 2017 en refusant de voter pour Benoît Hamon. Au demeurant, il n'y avait aucune chance qu'il vote pour Benoît Hamon. Il y a un moment, soyons clairs, 2 minutes. Hein. Benoît Hamon a remporté la primaire, Manuel Valls, il a fait ciao. Et c'était pas le seul d'ailleurs. Hein. Il est hors de question de soutenir le mec qui nous a mis dans la merde. Selon Manuel Valls, hein, évidemment, vous comprenez bien que chacun est son propre centre. Manuel Valls qui a rejoint Emmanuel Macron et qui s'est fait un soutien vocal du macronisme depuis 7 ans. Manuel Valls, habitué des plateaux télé, qui disait matin, midi et soir. Combien il conspuait la NUPES et le Nouveau Front Populaire, le Parti Socialiste d'Olivier Faure, qui se gauchise, qui se met dans la roue du méchant du film, Jean-Luc Mélenchon, Manuel Valls, voilà, soutien vocal du macronisme, du réformisme de Macron, de sa réforme de l'assurance travail, de l'assurance chômage, pardon, de sa réforme des retraites, etc. Alors Manuel Valls a eu quelques mots parfois pour dire que il trouvait difficilement lisible la dissolution, la réforme de retraite, on aurait pu mieux faire, etc. Mais bon, une fois que tu as mis ça de côté, Manuel Valls est un soutien d'Emmanuel Macron hein, depuis 2017. Donc bon. D'où mon ironie sur le groupe socialiste, à mon avis. Le groupe socialiste, ils ont vu la nomination de Manuel Valls, ils ont fait « Ah ouais, d'accord, donc on en est là, quoi. On en est à ce niveau-là de... D'accord, ok. On en est là. Puisqu'on parle de la gauche, allons-y franchement, l'autre prise de taille à la gauche. C'est la preuve que c'est un gouvernement équilibré. Attention, hein, l'autre prise de taille, pardon, c'est François Rebsamen. François Rebsamen, Reps pour les intimes du Parti Socialiste. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le maire de Dijon. C'est le maire de Dijon. Lui aussi, à mon avis, il va rester maire de Dijon pendant qu'il sera ministre. Hein. Pas folle la guêpe. François Rebsamen est assez proche de François, alors assez proche de François Bayrou. Les deux hommes se connaissent bien et échangent depuis longtemps. François Bayrou et François Rebsamen, pardon. Néanmoins, Rebsamen a quitté le Parti Socialiste en 2022. Voilà, le François Rebsamen a quitté le Parti Socialiste en 2022 pour les mêmes raisons que Manuel Valls et d'autres. Il a publiquement appelé à voter pour Emmanuel Macron. Voilà. Il a démissionné de Dijon, Rebsamen, il a juste la métropole. Oh bah ça va. D'accord, donc il n'est plus maire de Dijon. Eh ben bah, dis donc, eh bah, il va rester à la métropole. Donc voilà, donc c'est le retour au gouvernement de François Rebsamen. François Rebsamen qui s'occupe de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, etc. Pareil, je suis désolé, tous mes respects au maire de Dijon, l'ancien maire de Dijon, c'est plus un soutien de la gauche. Il l'a dit à plusieurs reprises, il l'a répété. Voilà. Il est plus au PS, quoi. Autre retour et pas des moindres, vous l'attendiez, Gérald Darmanin qui revient au gouvernement, mesdames et messieurs. Vous vous souvenez, en juin dernier, de Gérald Darmanin retirant ostensiblement sa cravate devant les journalistes pour montrer qu'il reprenait sa liberté, lui qui quittait le ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin qui revient par la fenêtre, cette fois-ci ministre de la Justice. Si vous trouviez que le précédent gouvernement était trop à gauche, rassurez-vous. Parce que rappelez-vous, dans le précédent gouvernement, on avait Bruno Retailleau à l'Intérieur et à la Justice, on avait Didier Migaud. Donc on pouvait se dire que c'était un peu équilibré. D'autant que Didier Migaud n'a pas manqué de faire remarquer à son ministre de l'Intérieur que « va te faire foutre, c'est moi le ministre de la Justice, donc tes réformes ultra-policières, etc., ça passera pas par moi. » Bon, bah voilà, c'est bon, c'est fini, il n'y a plus Didier Migaud, c'est terminé. Il n'y a plus Didier Migaud, maintenant c'est Gérald Darmanin. On a donc un duo Darmanin-Retailleau à l'Intérieur et à la Justice. Darmanin-Retailleau à l'Intérieur et à la Justice, full droite, clairement. Et Emmanuel Valls à l'Outre-mer, parce que je n'ai même pas dit à quoi il était nommé, Emmanuel Valls, mais il est nommé à l'Outre-mer. Il est ministre de l'Outre-mer, Emmanuel Valls. Lui qui a été Premier ministre par le passé, qui se retrouve à l'Outre-mer, enfin bref. Et c'est donc Emmanuel Valls qui va être chargé de mener la politique de reconstruction de Mayotte, notamment, entre autres, sans parler de la colère sociale dans les autres collectivités d'Outre-mer. Non, c'est sympa pour les Mahorais, je pense qu'ils vont être contents. Enfin, en même temps, les électeurs à Mayotte, ils sont plutôt à droite. Mais est-ce qu'il y a d'autres anciens premiers ministres ? À part Elisabeth Borne, Emmanuel Valls, non. Il n'y a pas d'autres anciens premiers ministres. Non. Fanny Runacher n'a jamais été première ministre de la République française. Hein. Rachida Dati non plus. Eh les gars, on parle de premier ministre. On parle pas de ministre. Premier ministre. Les deux seuls anciens premiers ministres sont Elisabeth Borne et Manuel Valls. Le chat a fumé fort. Le chat a fumé fort. Non, mais alors, moi, mon chat aussi, il s'est calmé. Vous avez vu, il est dans l'arbre à chat, là. Il bouge plus. Alors, avant, il faisait la teuf. Je crois qu'il est en train d'atterrir, là. Il est en train de comprendre. Il est en train de comprendre, il y a qui dans le gouvernement. Bruno Retailleau est maintenu à l'Intérieur, mesdames et messieurs. Bruno Retailleau est maintenu au ministère de l'Intérieur. Est-ce que ça veut dire que Bruno Retailleau maintient son projet de réforme de l'immigration qu'il avait annoncé ? On verra dans la suite du programme, on verra s'il a le temps de la dégainer, sa proposition de loi, enfin son projet de loi, parce qu'encore une fois, je vous le dis tout net, moi je ne vois absolument pas en quoi ce gouvernement là a plus de chances de survie que celui de Michel Barnier. Quand on a vu les conditions dans lesquelles celui de Michel Barnier a chuté, y a-t-il une chance d'une nouvelle censure ? Ah ouais, carrément, ouais. Alors, il va quand même falloir attendre des déclarations de Marine Le Pen, compte tenu du fait que Marine Le Pen, c'est elle hein, qui a fait tomber le gouvernement Barnier, je vous le rappelle. La gauche censurait de toutes les manières. Celle qui a changé d'avis et qui a fait volte-face, c'est Marine Le Pen. Avec son groupe de députés, Marine Le Pen avait fait savoir que si d'aventure il y avait Xavier Bertrand dans le gouvernement de François Bayrou, alors il serait censuré. Xavier Bertrand, vous le connaissez, c'est le président de la région Hauts-de-France, François Bayrou, qui s'est fait une identité politique de son opposition à Marine Le Pen. François Bayrou a arraché la région Hauts-de-France contre Marine Le Pen en 2015. Et depuis, il s'est fait une identité de la lutte contre le lepénisme. Xavier Bertrand, donc Marine Le Pen, quand elle a entendu dire qu'éventuellement Xavier Bertrand pourrait être... Xavier Bertrand. Oh putain. Eh, mais même moi, je m'y perds. Quand Marine Le Pen a entendu dire que Xavier Bertrand serait peut-être dans le gouvernement, elle a fait savoir que si jamais il y avait Xavier Bertrand dans le gouvernement, elle censurait immédiatement. Ok ? Donc, en l'état actuel des choses, ce que l'on sait, c'est que la gauche va censurer. Ce qu'on ne sait pas, c'est si Marine Le Pen va censurer. Est-ce que Marine Le Pen va obtenir quelque chose de plus de ce gouvernement ? Avec Manuel Valls, Gérald Darmanin et Bruno Retailleau, c'est possible. On verra la réforme de l'immigration, on verra. Est-ce que LR va censurer ? Non. Non, LR peut pas censurer, il y a Bruno Retailleau. Le timer de dissolution de l'Assemblée par Macron, il est à quand, STP ? Fin juin. Fin juin prochain. Alors, autre nouveauté, c'est le retour de Catherine Vautrin, ministre du Travail. Elle qui avait failli devenir, je vous rappelle, ministre... Première ministre, pardon, à la place de Michel Barnier. Je dis ça, mais en réalité, Catherine Vautrin... Non, c'était à la place de Gabriel Attal, pardon. Elle était déjà ministre, Catherine Vautrin, dans le gouvernement de Michel Barnier. Donc ça reste. Non, il y a quand même un petit nouveau qui fait son entrée à l'économie, mesdames et messieurs. C'est Éric Lombard. Éric Lombard à l'économie. Alors Éric Lombard, c'est l'ancien donc président de la Caisse des dépôts et consignations, du groupe Caisse dépôts et consignations. Typiquement Éric Lombard. Alors je l'ai interviewé d'ailleurs Éric Lombard il y a quelques années, si vous pouvez retrouver sur YouTube. J'ai interviewé Éric Lombard. J'avais fait un partenariat avec la Caisse des dépôts. Moi, Éric Lombard, c'est typiquement le genre de bonhomme que j'imaginais bien à la tête d'un gouvernement technique. Un gouvernement de haut fonctionnaire, c'est typiquement le haut fonctionnaire, quoi. Éric Lombard, ou c'est comme François Villeroy de Gallo, quoi, président de la Banque de France. C'est le genre de personne que j'imagine bien à la tête d'un gouvernement technique. Mais il faut vraiment que le gouvernement soit technique, quoi. Visiblement, il est plus classé à gauche, lui. Éric Lombard, ouais, la deuxième gauche, éventuellement. Mais non, Éric Lombard, c'est un... Il est dans la droite ligne de François Bayrou dans la lutte contre le déficit et la dette. On comprend pas bien ce qu'il fait là. Bah, disons que l'économie a besoin de stabilité, donc on met un mec stable. Mais... Mais ouais, non, Éric Lombard, je le classerais pas à gauche. Hein. En fait, je le classerais nulle part, c'est le président de la Caisse des dépôts, c'est pas... Pas besoin d'être de gauche, de droite ou de diagonale, mais par contre, économiquement, clairement, c'est pas un redistributeur acharné, quoi. Le cornu aux armées, ça bouge pas. Rachida reste à la culture. Rachida Dati, pardon. François Rebsamen, j'en ai parlé, à l'aménagement du territoire. Jean-Noël Barrot, ça bouge pas aux affaires étrangères. Agnès Pannier-Runacher à la transition écologique. Annie Genevard à l'agriculture. Laurent Marcangeli, lui, c'est le député Horizon. On a appris il y a quelques jours qu'Horizon acceptait de participer au gouvernement. On a la réponse, c'est Laurent Marcangeli. Et Marie Barsac, ministre des Sports, elle vient de Paris 2024, elle signe sportive, c'est ça ? Marie Barsac, c'est quoi son pédigré ? Elle est membre du comité d'organisation des Jeux Olympiques, là, de Paris 2024. Comité national olympique. Elle a été à la Fédération française de foot. Société civile. Société civile. Est-ce qu'il y a des ministres de gauche? Ça dépend ce que toi t'appelles la gauche. Suis sûr que si vous demandez à Éric Ciotti, il vous dira que tout ce gouvernement est socialiste, hein. Chacun son socialisme. Aurore Berger à l'égalité femmes-hommes, c'est un retour ou elle était déjà dans le gouvernement de Michel Barnier? Non, c'est un retour. Non, c'est un retour. C'est un retour, je suis d'accord avec vous. Je me disais bien qu'elle n'était pas dans la picture. Aurore Berger qui revient au ministère de l'égalité femmes-hommes. Sophie Primas en porte-parole, ouais. Yannick Neuder à la santé, je ne sais pas qui est Yannick Neuder. Est-ce que c'est de la société civile? C'est quoi comme Pokémon ça, Yannick Neuder? Il est cardiologue au CHU de Grenoble. Membre des Républicains, député. Ah ben il est député. Député LR. Maire de Saint-Étienne de Saint-Jouard. Très jolie ville. Très très jolie ville. Voilà. Bonjour, je ne regarderai plus ce stream vu l'extrait que j'ai vu passer sur Twitter, comme quoi tu ne donneras pas la parole au RN dans quelconque émission ou autre. Je ne supporte pas le RN, mais ce n'est clairement pas de l'égalité journaliste ou quoi que ce soit, très décevant à vrai dire. Oui, t'as raison, d'autant que je suis pas journaliste. C'est ballot, hein. réessaye si tu veux, mais je suis pas journaliste. Charlotte Parmentier-Lecoq au handicap, Amélie de Montchalin en compte public. Amélie Pontchalin, c'est pas une dépensière. Hein. Marc Ferracci à l'industrie, Véronique Louwagie au commerce. Enfin bref, c'est que du. C'est que de la ressucée, quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Il y a Juliette Méadel aussi, tiens, qui revient au gouvernement. Juliette Méadel, ancienne socialiste, mais qui fait partie de celles qui ont rejoint Emmanuel Macron. Elle était secrétaire d'État dans le gouvernement de François Hollande, enfin sous la présidence de François Hollande. Elle a été porte-parole du PS, je me souviens de cette époque-là, mais depuis, j'en ai plus trop entendu parler. Parce qu'en gros, elle est un peu disparue, quoi. Donc Juliette Méadel revient. Est-ce qu'elle a pris parole? Je regarde si elle a pris la parole publiquement pour soutenir. Pour soutenir Emmanuel Macron, mais j'ai pas l'impression. En fait, elle est proche de François Rebsamen. Elle est proche de François Rebsamen. Toutes ces nominations, vous pensez que ça compte après pour la retraite parlementaire? Je pense que oui. Et je me dis qu'ils y vont pour ça. Non, non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Comment devient-on proche de François Rebsamen? C'est ce que je te dise. Tu te rapproches de lui? Tu le soutiens? Pourquoi il précise ministre d'État? C'est un titre honorifique, ministre d'État, ça désigne les ministres les plus importants, par opposition au ministre délégué et au secrétaire d'État. Dans la hiérarchie du gouvernement, Il y a les ministres d'État, les ministres délégués et les secrétaires d'État. Et en plus, non, c'est pas vrai parce qu'on dit ministre de plein exercice par opposition à ministre délégué. Ministre d'État, ils sont moins nombreux. C'est encore plus au-dessus, les ministres d'État. En fait, on s'en branle un peu, hein, je vais pas vous mentir, c'est pas très important, mais quand tu fais des conseils des ministres, il y a des conseils des ministres au format restreint et des conseils des ministres au format élargi. Les conseils des ministres habituels au format restreint, les ministres d'État sont toujours autour de la table. Tous les mercredis, ils vont au conseil des ministres. Les autres ministres, les ministres qui sont délégués ou les secrétaires d'État, ne participent au conseil des ministres que quand on fait un conseil des ministres élargi avec tout le monde. En général, c'est une fois par an. Et quand un de leurs sujets est abordé dans la réunion du Conseil des ministres. Donc un secrétaire d'État, il peut ne participer qu'à deux ou trois conseils des ministres dans l'année, en fait. Le reste du temps, il n'est pas invité au Conseil des ministres parce qu'en fait, je suis désolé, mais tes sujets ne sont pas abordés aujourd'hui, c'est pas l'ordre du jour. Voilà. C'est pas les ministres régaliens. C'est pas automatiquement régalien. Par exemple, Elisabeth Borne, elle est ministre d'État alors qu'elle est ministre de l'Éducation nationale. Ministre de l'Éducation nationale, c'est pas régalien. Ce qu'on appelle le régalien, ce sont les sujets de structure du pouvoir et de l'État historique. Hein, à l'époque du roi, c'était pareil. Donc c'est intérieur, justice, armée. C'est le cœur de l'autorité de l'État. Économie, finance, en général, on le met aussi dans le régalien. Voilà. Affaires étrangères, dans le régalien, bien sûr. Du coup, la différence entre ministre délégué et secrétaire d'État, c'est quoi? Écoute, à ma connaissance, c'est purement protocolaire, hein. Est-ce que Macron a gagné les dernières élections? Non. Emmanuel Macron n'a pas gagné les dernières élections. Il a 180 députés à peu près. Ça dépend comment tu comptes. Qui le soutiennent. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'encore une fois, ce gouvernement, il est bien gentil. Félicitations les nouveaux ministres, tout ça. Profitez bien des fêtes de Noël parce que vous n'allez pas rester ministre à longtemps, en fait. Je ne vois pas en quoi les conditions ne sont pas réunies pour que ce gouvernement soit censuré dès la rentrée. Alors, une fois que je dis ça, tout dépendra de ce que fait le RN. C'est le RN qui est majoritaire? Non plus. Non, le RN n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale en 2024 après Jésus-Christ. Non, ça non plus. Ils ont 100... Ils ont combien? Ils ont 130 députés, le RN? En comptant leurs alliés. Cent quarante avec l'UDR. Ok, merci les copains. 140. 140 avec les ciotistes. Donc bon, très 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 loin de la majorité. Ils sont pas majoritaires, les MODEM. Les modems, ils sont 30 de mémoire. non, ils sont encore moins majoritaires. N'y a pas un cooldown pour une motion de censure? Non, il n'y a pas de cooldown pour les motions de censure, il y a un cooldown pour les dissolutions. Il n'y aura pas de dissolution avant le mois de juin prochain. Et le gouvernement actuel pourra faire l'objet d'une motion de censure, soit dès la rentrée avec une motion de censure déposée par le nouveau Front Populaire et voté par le RN, soit plus tard, à l'occasion peut-être d'un article 49.3 engagé sur un budget, par exemple. Mmh. c'est un gouvernement qu'on aurait pu avoir avant les européennes, c'est vraiment du délire. Je suis d'accord avec toi. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Ton analyse est bonne. Avant les européennes, on était sous Manuel Valls. Franchement, là, tout ce que je vois, c'est Valls compatible. À l'exception peut-être de Bruno Retailleau. Mais tout le reste, franchement... Ipsamen, Laurent Marcangeli, Elisabeth Borne, Manuel Valls. Attal, pas Valls. J'ai dit quoi ? J'ai dit Attal ? Ah, j'ai dit Valls, pardon. J'ai remis Valls à Matignon. Non, 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 excusez-moi, pardon. Je m'ai trompé. Non. Valls n'est plus à Matignon depuis... Quoi, 8 ans bientôt ? Je sais qui vous avait manqué, c'est pour ça que vous êtes très heureux ce soir de le revoir, membre du gouvernement. Donc maintenant, Manuel Valls, c'est monsieur le ministre, hein, je vous rappelle. C'est monsieur le ministre. Hein. Et en plus, il va enfin pouvoir être invité à la télé. Ah bah non, ça du coup, ça marche pas. Ah non, il est tout le temps à la télé. Bah il va devoir moins aller à la télé, Manuel Valls. Il a plus le temps. Il a plus le temps de squatter tous les jours les chaînes d'infos. Il faut travailler, monsieur Valls, là, ça devient gênant. Enfin, tu me diras, il est aux Outre-mer, donc pourra expliquer que c'est compliqué, ça prend du temps, mais... Valls, c'est tellement un retourneur de veste. Bah, pas tant que ça, hein, Manuel Valls, il a un peu toujours été le même. Hein. Faut reconnaître que Manuel Valls, il est quand même assez constant depuis 2017. C'est un ancien chroniqueur, on peut dire qu'il vient de la société civile. Ouais, on va dire ça. Manuel Valls, c'est la société civile. C'est un chroniqueur. Comment analyser la nomination de Darmanin à la justice après sa sortie sur la peine encourue par Marine Le Pen ? Qu'est-ce qu'il avait dit Darmanin sur l'inéligibilité de Marine Le Pen ? Lui aussi, il avait critiqué, comme François Bayrou, en disant que c'était pas bien. Que c'est pas une bonne idée, l'inéligibilité, c'est ça ? Que ce serait problématique ? Ouais. Ouais, c'est ça, il avait dit ça. Bah écoute, il est Le Pen compatible. Encore une fois, il s'agit pas tant, les amis, d'analyser le casting en se demandant si Marine Le Pen va soutenir le casting ou pas. Marine Le Pen s'en branle pas mal du casting, on l'a vu avec Barnier. Ce qui compte, c'est la politique qui est menée. Si Marine Le Pen estime que les mesures qui sont prises sont pas assez favorables à sa ligne politique, elle censure. J'ai dit Marine Le Sperme. Ça se sent que je suis fatigué et qu'on est à 2 jours de Noël, là. Stream top 1 France. Ah, on est top 1 France. Eh ben écoute, j'en suis ravi. Ah, c'est un grand soir ce soir pour le streaming français, mesdames et messieurs. Bienvenue à vous, hein, si vous étiez perdu sur Twitch et que vous vouliez regarder une petite game de Valo tranquille. Ici, on est sur un stream de joie, d'allégresse, d'espérance dans l'avenir, compte tenu de la composition du gouvernement qui vient de nous être annoncé. On est sur un stream de speedrun. J'avoue, je devrais mettre la catégorie speedrun. Moi, je pense que Marine Le Pen a tout intérêt à censurer, quel que soit le gouvernement. Macron est détesté par son électorat et toute non-censure sera vue comme une compromission. Bonne question, à voir. Est-ce que Marine Le Pen a intérêt à la dissolution en juin prochain ? Première question. Deuxième question, est-ce que Marine Le Pen a intérêt d'ici à juin prochain à faire changer, comme elle le demande, la règle électorale pour passer à une proportionnelle avec prime majoritaire tant qu'à faire ? Mmh. Électoralement, tous les indices sont au vert pour elle. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc Marine Le Pen aurait probablement intérêt à continuer à censurer, à rendre la situation ingouvernable autant que possible, pour arriver en juin prochain et remporter les élections législatives. Il reste 8 jours pour boucler le budget. Est-ce que c'est bien ça? Non, 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 non. Il n'y a pas besoin de boucler le budget. On a une loi spéciale qui a été votée. Donc, il faudra au début de l'année prochaine, en début 2025, dès janvier ou février, que le gouvernement de François Bayrou entame les discussions sur un nouveau budget, cette fois-ci. Mais là, on a une loi spéciale qui permet de passer les fêtes. On vit dans un monde où Hollande peut censurer Manuel Valls et toi, ça va? Oh, j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte que François Hollande censure un gouvernement dans lequel il y a Manuel Valls. Ouais, ça bouclera la boucle, hein. Ça bouclera la boucle, hein. Ou Rebsamen. Putain, Rebsamen. Je pense que François Hollande, ça lui fera plus chier de censurer Rebsamen que Valls. Quelle probabilité de censure pour ce gouvernement? Bah écoute, la question que tu poses est bonne. Moi, je considère que la probabilité de censure est de 100%, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de différence majeure entre ce gouvernement et celui de Michel Barnier. Je vois pas pourquoi ce gouvernement se mettrait à obéir au doigt et à l'œil de Marine Le Pen. La contentant, sachant qu'en plus elle fait monter les enchères à chaque fois qu'elle négocie. Oui, ce gouvernement, il va tomber comme celui de Michel Barnier est tombé. Hollande, il va créer un groupe qu'on pourrait appeler les dissidents du PS qui se rapprocherait du bloc central. Non, il est beaucoup plus malin que ça, François Hollande. Il a été premier secrétaire du parti pendant suffisamment longtemps pour savoir que c'est beaucoup plus habile de rester à l'intérieur de la machine. Non, pour moi, la gauche va censurer le gouvernement Bayrou, je vois pas pourquoi elle le ferait pas. Après, ils vont peut-être pas le faire Or, en fait, ce qui va se passer, c'est que le 14 janvier prochain, il y aura le discours de politique générale de François Bayrou, donc le moment où le Premier ministre vient devant le Parlement présenter sa politique. Il n'y aura pas de vote ensuite de confiance, hein, ça c'est sûr. Mais par contre, il pourrait y avoir une motion de censure déposée par les Insoumis qui sera examinée 2 jours plus tard, le 16 janvier. Et il est possible que cette première motion de censure ne soit votée que par les Insoumis. Pourquoi? Parce que les autres groupes ont dit qu'ils ne souhaitaient pas faire de censure a priori. Sous-entendu, on ne s'oppose pas par principe à François Bayrou, on s'opposera à François Bayrou si la politique qu'il mène est contraire à ce que nous, on prône. Auquel cas, il pourra y avoir le vote d'une motion de censure plus tard, à l'occasion d'un nouveau dépôt de motion, par exemple, ou à l'occasion d'un 49-3. Alors, les Verts, ouais, les Verts, les écolos, ça dépend quel jour. Ils ont un peu dansé sur deux pieds l'un après l'autre. Certains moments, ils ont dit pas de censure a priori, à d'autres moments, ils ont dit on censurera s'il y a Bruno Retailleau dans le gouvernement. C'était la ligne rouge, ouais. Ouais. Et ben, on verra si les écolos censurent dès le début. On peut déposer une motion de censure quand on veut. Oui, on peut déposer une motion de censure quand on veut, mais il y a une limite du nombre de motions de censure qu'on peut déposer dans l'année. En gros, tu as chaque député a la possibilité de signer, donc de déposer, trois motions de censure par an. Hors 49-3. Et je redis bien hors 49-3. Donc si tu as cramé tes trois jokers, tu peux plus re-signer de motion de censure, tu n'as plus le droit. Tu dois attendre soit la fin de la session parlementaire, soit le dépôt d'un 49-3. L'engagement d'un 49-3 par un gouvernement. Elisabeth Borne, numéro 2 du gouvernement, mais nos problèmes, Macron a accepté les résultats des européennes et a redonné la voix aux Français. Oh, pour la décharge d'Elisabeth Borne, c'était pas elle qui était première ministre au moment des européennes, hein, c'était Gabriel Attal. C'est par année civile? Non, c'est par année scolaire. En fait, on appelle ça une session au Parlement. Ce qu'on appelle une session, c'est le calendrier, la durée pendant laquelle le Parlement siège de manière habituelle. Ça va du 1er octobre au 30 juin. Donc c'est à peu près une année scolaire. C'est pas de la triche de limiter les motions de censure alors qu'on peut renommer des gouvernements à l'infini? Ben non, pourquoi? Le but, c'est d'empêcher des dépôts de motions de censure en permanence. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'une motion de censure est déposée, elle doit être examinée dans les 48 heures et elle doit être soumise au vote dans les 48 heures. Ce qui fait que pendant une journée entière, une demi-journée, l'Assemblée ne s'occupe que de ça. Si tu laisses aux opposants la possibilité de déposer autant de motions de censure qu'ils veulent, moi j'en connais deux, trois, que ça amuserait de déposer des motions de censure tous les jours. Pour juste faire chier. Bloquer le travail du Parlement. Donc pour éviter ça, on a créé un système de limitation. C'est pas spécial pour Darmanin de passer de l'intérieur à la justice alors que les deux ministères sont en concurrence. Les deux ministères sont pas en concurrence. L'intérieur et la justice sont pas en concurrence au sein d'un gouvernement. Ils participent de la même équipe gouvernementale, ils mènent la même politique, etc. C'est juste qu'à l'usage, on se rend compte qu'il est arrivé que des ministres de l'intérieur reprochent au ministère de la justice, en réalité pas au ministère de la justice, mais à la justice elle-même. D'être trop laxiste, trop clémente, etc. D'où le fait de mener des réformes qui changent les lois et qui forcent les magistrats à être moins cléments. La tolérance zéro de Nicolas Sarkozy, c'était ça. C'était de dire la police fait son travail, elle arrête les délinquants, par contre, il faut que la justice fasse le sien, sous-entendu qu'elle condamne les délinquants et qu'elle les condamne pas à des peines alternatives. Qu'elle les condamne à des peines de prison ferme, etc. C'était ça la politique d'Emmanuel Macron. Vous avez déjà entendu parler des peines planchers, par exemple. Les peines planchers, c'est typiquement le genre de truc voté par Nicolas Sarkozy, à l'époque voté sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui oblige les magistrats à prononcer des peines minimum dans certains cas. Donc, par exemple, dans le cadre de la récidive, si un mec il a déjà été condamné une première fois, hein, il revient devant un tribunal, là le tribunal n'a pas le choix, il est obligé de lui donner minimum un an de prison, par exemple. Ouais, c'est ça qu'on appelle une peine plancher. À l'époque, il trouvait la police, la justice laxiste. Oui, à l'époque, Nicolas Sarkozy a conquis le cœur des Français avec une politique effectivement très punitive. Bon, bah aujourd'hui, il est devant les tribunaux. Ça le fait moins marrer, du coup. D'ailleurs, j'ai vu qu'il allait devant la Cour européenne des droits de l'homme, hein, parce qu'il a été condamné de manière définitive dans l'affaire Paul Bismuth, et il a dit qu'il allait devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cour européenne des droits de l'homme, qui l'a longtemps critiqué. Longtemps, longtemps, longtemps. Cour européenne des droits de l'homme, qu'est-ce que c'est que ces magistrats qui passent par-dessus les Français pour faire sortir de prison des délinquants, les droits de l'homiste du café de Flore qui nous empêchent de réprimer. La Cour européenne des droits de l'homme est antidémocratique, etc., etc., etc. Classique. Marine Le Pen a stratégiquement plus intérêt à avancer le calendrier pour une hypothétique présidentielle, donc serait tentée de voter la censure en janvier. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est la question de l'accélérationnisme. Est-ce que Marine Le Pen a un intérêt à déclencher une nouvelle élection présidentielle ? On sait que c'est la stratégie de la France insoumise d'essayer de déclencher une démission du président Emmanuel Macron de manière à déclencher une présidentielle surprise. Je vous rappelle que c'est très rapide, hein, entre la démission d'un président ou son décès, par exemple, et l'organisation d'une nouvelle élection, ça se fait en 40 jours. C'est très, 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 très rapide. Donc, ça donne des élections. Les élections anticipées de ce niveau-là, ça donne des élections très incertaines, puisque les camps politiques n'ont pas le temps de se préparer. Par exemple, on n'a pas le temps de faire une primaire. Si on organise une élection présidentielle en 40 jours, on n'a pas le temps de faire une primaire. Il faut très très vite aller chercher les signatures. C'est comme ça que Giscard a été élu en 75, hein. En 74, pardon. Giscard a été élu parce que décès de Georges Pompidou, 40 jours plus tard, les Français ont voté et hop hop hop, c'est lui qui a tiré les marrons du feu, quoi. Mais il n'y a pas vraiment eu de campagne, en fait. Il n'y a pas vraiment eu de programme non plus de Giscard, d'ailleurs. On n'avait pas le temps, hein. Il y avait une candidature, c'était Giscard. La droite non gaulliste, et il a gagné. Est-ce que c'est vrai que la gauche serait capable de s'unir sans primaire ? Non. Bah non, parce qu'il y a plusieurs partis à gauche qui ont de toutes les manières l'intention de présenter leur candidat à eux, sans que ce soit le fruit d'une discussion avec les autres, etc. C'est la France insoumise et le Parti communiste, qui ont tous les deux des stratégies d'autonomisation sur la présidentielle. Donc, bon... Non, puis, en fait, je suis en train de réfléchir, mais je me dis, admettons qu'Emmanuel Macron démissionne après une censure du gouvernement Bayrou, etc. Est-ce que Glucksmann, il aura le temps d'aller chercher 500 signatures ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben, je pense pas, hein. Moi, c'est Glucksmann, place publique. Ben, je vous aime bien, mais vous... Je veux dire, vous avez... c'est pas comme si vous aviez un parti organisé avec des militants, etc. Enfin, c'est compliqué. Les maires PS, je suis pas sûr que tous les maires PS ils soutiennent Glucksmann, hein. Il est détesté de personne, Glucksmann. Non, 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 mais il y en a plein qui l'aiment bien, Glucksmann. Il y en a plein qui lui reprochent rien, voire même Raphaël Glucksmann pourrait apparaître auprès d'un certain nombre de centristes comme un renouveau du macronisme avec l'espoir de 2017 renforcé, etc. Glucksmann, il est détesté de personne, mais il est favori de personne. Ouais, non, mais c'est ça. C'est, en fait, il n'emballe pas grand monde. Il n'emballe pas grand monde, mais il pourrait se retrouver dans un alignement de planètes, etc. Donc voilà quoi. À une présidentielle devant le danger de l'extrême droite, la gauche n'aurait pas le choix de s'unir devant Mélenchon pour une présidentielle rapide. Mais pourquoi? Pourquoi spécifiquement derrière Jean-Luc Mélenchon? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi pas Lucie Castet? Castel is ok, bah Castel, elle représente l'union de la gauche. Elle est issue de l'union de la gauche. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est hyper intéressant parce que toutes ces discussions-là, elles n'ont pas le temps de se faire en cas de démission du président de la République. Tout doit aller extrêmement vite. Tout doit aller extrêmement vite. Impossible que LFI puisse soutenir Ruffin, par exemple, selon toi. Oui, en l'état actuel des choses, oui, c'est impossible. Oui. François Ruffin s'est fait virer de la France insoumise. La France insoumise a déjà un candidat qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Voilà, ça fait deux bonnes raisons, je trouve, dire que non, ça n'a pas de sens. En quoi le président démissionnerait si rien ne l'y oblige constitutionnellement? Ben, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Il pourrait arriver un moment où la crise politique est telle. En fait, la démission d'Emmanuel Macron devient la clé réclamée par à peu près tout le monde. Que les opposants d'Emmanuel Macron demandent sa démission, c'est normal. Emmanuel Macron ne va pas démissionner parce que les insoumis le lui demandent. Je vous le rassure, il ne le fera pas. Ça ne l'intéresse pas. Il n'a jamais cherché à plaire aux insoumis, donc ils sont rien à branler. Donc voilà, pareil pour Marine Le Pen, si elle demande la démission du président de la République, etc., il ne le fera pas. Mais si ça commence à devenir un truc qui est réclamé, y compris par des partis plus modérés, par les républicains, si ça commence à être évoqué par les socialistes, les écologistes, etc., il va peut-être y avoir un moment où même certains macronistes vont commencer à dire peut-être que Emmanuel Macron devrait partir. Et il y a un moment où t'es acculé, en fait, t'es dos au mur. Est-ce que Mélenchon accepterait de laisser quelqu'un à sa place? Ça, j'en sais rien. Hein. Il a longtemps fait courir le bruit que c'était l'option qui avait sa préférence. Aujourd'hui, il est assez clair qu'il se prépare, lui, à se présenter à l'élection présidentielle anticipée, qu'il appelle de ses voeux, d'ailleurs. Voilà. Mais de toute façon, encore une fois, c'est pas une question que tu peux régler en 40 jours. Hein. Dans quelle mesure l'Assemblée peut requérir une destitution du président? Dans le cadre de la convocation de la haute cour est convoquée par les députés à l'encontre d'un président de la République qui peut arriver jusqu'à sa destitution. Le truc, c'est que la haute cour, c'est pas censé être un jugement d'ordre politique, c'est censé être un jugement d'ordre pénal, en fait, enfin, pénal. Il faut réussir à démontrer que le président de la République a pris des décisions contraires à sa charge. Juridique, ouais, voilà, c'est ça, juridique. Il faut qu'il ait fait quelque chose de manifestement incompatible avec l'exercice de ses fonctions. Genre déclarer une loi martiale. Ouais, genre ça, non mais tu vois. Alors ça s'est terminé en Corée du Sud parce que le président a démissionné de lui-même, mais clairement le Parlement était parti pour le destituer. De la même manière, en mode, bah écoute, t'as fait une connerie, hein. Ça dégage. Il a été destitué. Le président de Corée du Sud, je croyais qu'il avait démissionné. Ah non, il a été destitué. Ah, autant pour moi. Je croyais que c'était barré. Destitué second vote. Ok, d'accord. Est-ce qu'un ancien président peut devenir ministre? Tu penses à qui? Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un dans la salle. Et la réponse est oui, bien sûr. C'est le ministre de l'Intérieur qui a démissionné, il me semble. Ah bah j'ai confondu alors. Je fais pas la différence entre la loi martiale et l'article 16. C'est con, tu devrais, parce que les deux sont l'inverse l'un de l'autre. Mais est-ce qu'on peut être ministre en télétravail? Non. Tu penses au bracelet électronique de Nicolas Sarkozy? Non, je suis navré de vous l'annoncer. C'est pas possible. Je viens de voir le gouvernement, pourquoi n'apprennent-ils pas de leurs erreurs? Bah écoute, on verra. On verra si Marine Le Pen, encore une fois, celle qui détient les clés du gouvernement Bayrou, c'est Marine Le Pen. C'est pas la gauche. C'est Marine Le Pen. Donc la gauche va déposer des motions de censure, on verra si Marine Le Pen les vote ou pas. Et entre-temps, elle va bénéficier de cette posture d'indécision pour négocier un maximum de trucs avec le gouvernement. Pourquoi Marine Le Pen préférerait ce gouvernement à celui de Barnier? Parce que ce gouvernement serait plus obéissant que Michel Barnier qui a refusé deux, trois trucs. Bardella semble vouloir censurer d'après son poste X. Bardella n'est pas député. Il est député européen. Peut-être qu'avec Bardella, d'ailleurs, Marine Le Pen et Bardella jouent good cop, bad cop. Il y a celle qui se montre conciliante et prête à négocier, qui est Marine Le Pen, et celui qui tape fort avec son bâton, et qui est Jordan Bardella, et qui est plus proche des militants, etc. J'en sais rien. Est-ce que le fait que Marine Le Pen soit plus puissante que la gauche, alors que son parti a moins de membres que la gauche, est dû au fait que son parti est plus uni? Non, c'est dû au fait. Alors déjà, ils ont une position relative qui est relativement similaire, la gauche et Marine Le Pen. Hein, ils sont tous les deux d'un bord de l'hémicycle. Ils tentent de tirer la couverture à eux en termes de politiques publiques qui sont menées. Ce qui permet à Marine Le Pen de tirer les marrons du feu davantage que la gauche, c'est que elle est dans une posture d'hésitation vis-à-vis de la censure, là où la gauche est un peu plus formelle. Formelle et systématique. Autant dire que la gauche, elle est toujours là où on l'attend, mais Marine Le Pen, Elle annonce ses lignes rouges et elle dit qu'elle est en mesure de ne pas censurer si d'aventure le gouvernement faisait ça. En réalité, ce que je dis n'est pas tout à fait vrai parce que la gauche aussi dit publiquement quelles sont ses lignes rouges et quelles sont ses volontés. Par exemple, réforme des retraites. Revenir sur la réforme des retraites de 2023 fait partie des prérequis de la gauche pour soutenir un gouvernement. Soutenir ou ne pas censurer. Il n'y a pas le fait que le RN vote avec la gauche alors que l'inverse n'est pas vrai. Si, ça aide. Enfin, en même temps, non, parce que techniquement, ça devrait plutôt affaiblir le RN, hein, ça. Mais oui, il faut rappeler que la gauche refuse de signer les motions de censure du RN. La gauche refuse de voter les motions de censure du RN alors que le RN, ça lui arrive de voter les motions de censure de la gauche. Le RN est plus républicain que la gauche. Elle est dure celle-là quand même, hein. Elle est dure. Hein. N'hésite pas à taper le mot république dans Google et à lire un peu l'histoire du bordel, tu verras, c'est intéressant. Je trouve ça débile que la gauche ne joue pas le jeu et refuse de voter les textes ou les motions du RN qui vont dans leur sens. Parce que rien de ce que propose le RN ne va dans le sens de la République et de la gauche. Pour quelqu'un de gauche. Le Rassemblement national est dans une stratégie de dédiabolisation. Le Rassemblement national essaye de montrer qu'ils sont des gens ouverts d'esprit, que c'est pas des fachos avec des moustaches et des bottes en cuir. Qui sont capables de discuter, de faire preuve de mansuétude, et dans l'intérêt supérieur du pays, de voter avec des groupes avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Ce qui est une position d'ouverture historique, hein, qui existait avant ça au centre et tout, machin. Mais là, le fait que le RN l'utilise, c'est plus récent, et c'est la stratégie de dédiabolisation du RN. Et ça va dans le sens de la dédiabolisation du RN que de voter des trucs de gauche. Le RN, la main sur le cœur, vote en faveur de l'IVG dans la Constitution. Non sans ironiser sur le fait que le jour où ils seront au pouvoir, ça les empêchera pas de mener des politiques hostiles au droit à l'IVG, mais voilà. Et pareil pour les motions de censure. Vive le renouveau politique, vive la France. Ah, un militant du MoDem! Salut! Ça va? Tu dois passer une bonne soirée, toi. Ça y est, on a le gouvernement. Le gouvernement de François Bayrou. Écoute, c'est Noël, donc je lui souhaite un prompt succès. Je lui souhaite même une longue vie à ce gouvernement Bayrou. Je suis sûr que c'est le D-Day du centre en France et que dans les années qui viennent vont être entreprises des réformes structurantes qui définiront notre paysage sociopolitique pour les siècles qui viennent. Finalement, François Bayrou, c'est un peu le Aristide brillant du XXIe siècle. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Oh. Dis pas ça. On fait des paris sur combien de temps ce gouvernement tient? Non, non, mais moi, je pense que fin février, c'est ciao. Bah, en fait, le budget, c'est ciao. Les gauchos qui ont coulé la France et qui se permettent de donner des leçons. Les gauchos qui ont coulé la France? Mais ils sont où? C'est qui les gauchos qui ont été au pouvoir ces 70 dernières années? Bah, tu les as vus, toi? Faut prévenir les gars. Eh, s'il vous plaît, la prochaine fois, prévenez. Enfin, je sais pas. Les socialos. Ils ont été au pouvoir quand, les socialos? Entre 81 et 83, ouais. Après, compliqué, hein. Après, bon, voilà, je veux dire, à peu près tout ce qui a été décidé entre 81 et 83 a été annulé entre 86 et 88. Après, il y a eu Rocard. Vous le mettez dans le gauchisme, Rocard, ou vous êtes comment, vous? Vous êtes à l'aise là-dessus? Traité de Maastricht et tout. Vous me dites, hein. Léon Blum. Ah oui, putain, on revient à Léon Blum. Ah ouais. Rocard, extrême gauche. Oui, voilà. Enfin, je rigole, mais encore une fois, comme je vous le disais la dernière fois sur la séance à l'Assemblée, la notion de gauche et de droite, c'est une notion qui est relative et contextuelle. Vous n'avez peut-être pas la même définition de ce que c'est que la gauche et de ce que c'est que la droite d'une autre personne. Et quand vous entendez par exemple Éric Ciotti parler, Éric Ciotti considère que la France est sous le joug du socialisme, de la gauche, depuis 12 ans. On n'en peut plus, on en crève de ce socialisme. Emmanuel Macron n'est rien d'autre que la créature de François Hollande. C'est un pur produit du PS qui ne jure que par la dépense publique. Alors, il y a eu la parenthèse de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012, effectivement, où là, il y a eu un peu de droite, et encore, c'était une droite un peu molle qui était au pouvoir. Et avant ça, quand c'était le chiracisme et encore avant les socialistes avec Jospin, c'était pareil que des nuances de socialisme. Donc, dans la tête d'une personne d'extrême droite, la France est gouvernée par la gauche depuis 97, avec une petite exception pour Nicolas Sarkozy. Voilà. C'est à peu près ça le. Donc, gardez toujours en tête que voilà, d'autres personnes que vous ont un POV qui n'est pas le vôtre. Le POV de Ciotti est déglingué. Il n'est pas déglingué, c'est juste pas le même que le tien. C'est tout. Y a des POV plus éclatés que d'autres. Il y a des gens qui ne voient pas les choses de la même manière que toi, effectivement. Donc, mais le socialisme est un concept avec une définition, on ne peut pas en faire ce qu'on veut. Si. Si, si, on peut l'utiliser comme un anathème, si on a envie. Um... malheureusement, aujourd'hui, tout le monde est persuadé de détenir la seule et unique vérité. C'est pas tant qu'une question de vérité ou de encore une fois, on n'est pas dans le domaine du savoir, dans le domaine de la perception, dans le domaine du positionnement, de la volonté, etc. Donc, oui, on a tous naturellement tendance à penser de manière absolue, alors qu'on devrait garder en tête que la relativité galiléenne nous rappelle bien que tous les points de vue peuvent se valoir. Attention à ne pas tomber dans un relativisme extrême où tout se vaut. Non, moi, alors moi je considère pas que tout se vaut. En revanche, mon point de vue n'est pas supérieur au tien. Pas meilleur que toi, moi. T'as le droit de voir les choses d'une manière différente de la mienne. T'as parfaitement le droit. Il est impossible de faire des alliances entre partis pour voter des lois essentielles. Bah si, la preuve, ils ont voté une loi d'exception. À l'unanimité. Enfin, sans la France insoumise qui s'est abstenue. Le retour de Valls. Ouais, il y en a qui découvrent. Bonjour, hein. Bonjour, bienvenue. Il y en a qui découvrent le retour de Manuel Valls à l'Assemblée nationale. Pas à l'Assemblée nationale, pardon, au sein du gouvernement de la République. Manuel Valls, ministre des Outre-mer, qui va s'occuper notamment de Mayotte. J'ai vu que François Bayrou était sur BFM TV à 20h30, mais je n'ai pas les droits de diffusion, donc je ne peux pas vous diffuser. BFM TV, j'ai pas pensé à demander, et là de toute façon il est trop tard. C'est pas parce que t'as le droit d'avoir un autre point de vue que ton point de vue est pas éclaté. Mais éclaté selon qui ? Très narcissique, je trouve, comme manière de voir les choses. Valls a traversé la rue. C'est ça. Ça y est, Valls s'est trouvé un nouveau taf. On est presque content pour lui, dis donc. Mais ça va pas durer longtemps. Valls va pouvoir arrêter de toucher les droits de France Travail. Ouais, grave. Franchement, ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps, ce gouvernement. J'arrive pas à imaginer un scénario où ça dure longtemps. En fait, je vois pas pourquoi Marine Le Pen aurait plus de mansuétude avec ce gouvernement qu'avec le précédent. Je sais pas. À cause de la proportionnelle, j'ai pas entendu François Bayrou s'engager à la proportionnelle. Ça, c'est un truc qu'on verra le 14 janvier dans son discours de politique générale. Est-ce que le gouvernement va engager une réforme du mode de scrutin? En tout cas, ce gouvernement est un immense doigt tourné vers la gauche. Oui, bon, en même temps, il cherchait pas particulièrement à séduire la gauche, hein. Je crois qu'on l'a compris dans les négociations, hein. Bayrou était un défenseur de la proportionnelle de mémoire. Absolument, François Bayrou a longtemps été un défenseur de la proportionnelle. Alors c'est toujours pareil, hein, François Bayrou, il est défenseur de trucs jusqu'au moment où ça l'arrange moins. Hein. Regardez le cumul des mandats. Le cumul des mandats, il a longtemps été contre, bon, maintenant il est pour. Il veut même éventuellement faire voter une loi pour revenir en arrière. Le truc, c'est que la proportionnelle, c'est en train de devenir un truc assez unanime. La proportionnelle est portée par la gauche de manière historique, parce que la gauche a une dent contre le scrutin majoritaire de Gaulle et de la Ve République. La droite est pour la proportionnelle parce que la droite est le premier, pardon, l'extrême droite de Marine Le Pen est en train de devenir, pour en train de devenir, d'ailleurs il l'est déjà, le premier parti de France. Donc ils sont pour la proportionnelle parce qu'ils estiment que grâce à la proportionnelle, ils n'auront plus à subir de Front républicain. Front républicain que Marine Le Pen dénonce vocalement, hein, d'ailleurs. Qui, pour elle, est un truc antidémocratique. On a privé les Français de choisir et tout machin. Et du côté des macronistes, bah, les républicains, eux, ils sont pas pour la proportionnelle. Ils l'ont jamais vraiment été. Je vois pas pourquoi ils le deviendraient. Mais chez les centristes, il y a aussi le MoDem. Hein. Le MoDem, historiquement, oui, ils sont pour la proportionnelle. Parce que la proportionnelle, c'est censé être un système de vote qui permet de faire respirer un peu plus les petits partis. Les petits partis, sinon, ils sont écrasés par la proportionnelle. Par le scrutin majoritaire, pardon. Et par les hégémonies. Donc François Bayrou essaye de faire vivre, a longtemps plaidé pour la proportionnelle. Ce qui fait que au point où on en est, on arrive à un moment où en fait la proportionnelle est défendue par tout le monde. Mais je suis pas sûr que ce soit la même proportionnelle qui soit défendue par tout le monde. Marine Le Pen souhaite une proportionnelle, une proportionnelle intégrale avec prime majoritaire. Les écologistes, on avait lu ensemble la tribune de Mélanie Vogel, la sénatrice écolo, qui proposait une proportionnelle avec des listes par région. Et dans certains travaux préparatoires, notamment dans ceux, je me souviens, de la réforme avortée de la Constitution de 2018, il y avait. Il y avait une dose de proportionnelle. Donc en gros, on maintient les circonscriptions avec l'élection des députés, et certains députés sont élus à la proportionnelle pour venir corriger. Pour venir corriger les effets néfastes du scrutin majoritaire. Tu penses pas que Marine Le Pen censure en fonction si la condamnation est de l'inéligibilité aux prochaines présidentielles? Si elle l'est, elle pourrait censurer en mettant Macron au pied du mur pour la nommer première ministre. Non, je vois pas pourquoi Marine Le Pen deviendrait première ministre. Marine Le Pen n'est soutenue que par 140 députés. Si ce gouvernement est censuré, il se passe quoi? Eh bah, ben, rebelote, hein, nouveau Premier ministre, nouveau gouvernement. Et Barnier et Bayrou, ils sont soutenus par... Alors, Barnier et Bayrou sont soutenus par 220 députés. Et ils sont indirectement soutenus par l'abstention de Marine Le Pen, qui ne les censure pas. Enfin, je dis ça. Vous avez vu ce que ça a coûté à Michel Barnier, hein? Ça a duré que 3 mois. Michel Barnier n'a pu gouverner la France que 3 mois parce que Marine Le Pen a accepté pendant 3 mois de laisser Michel Barnier gouverner. Est-ce qu'une proportionnelle ne pourrait pas finalement participer légèrement à la baisse des scrutins du RN si celui-ci étant perçu comme beaucoup d'électeurs comme le seul parti d'opposition au pouvoir en place? Ben non, du coup, tu te contredis. Tu te contredis. Si le RN est perçu par les électeurs comme la seule opposition au pouvoir en place, le RN bénéficiera d'une élection, qu'elle soit proportionnelle ou majoritaire. J'avoue que je ne comprends pas la rigidité du NFP, LFI. C'est-à-dire... On peut pas dire que le NFP soit rigide, parce qu'il y a plusieurs partis au sein du NFP qui n'ont pas tous les mêmes stratégies. En l'occurrence, la France Insoumise, ils sont assez clairs, et ils sont assez clairs depuis le début. Ils prétendent avoir gagné les élections législatives de juin 2024. Dès lors, ils estiment que le pouvoir leur revient de droit. Et que tant qu'ils ne l'obtiennent pas, ils voteront la censure de tous les autres gouvernements qui ne sont pas Lucie Castet, et ils proposeront la destitution du président de la République. Les autres partis du NFP, LFI est un peu isolé dans cette stratégie, les autres partis du NFP, eux, sont OK pour discuter, dialoguer avec les macronistes, pour voir s'il est possible de trouver un accord en vue de former un gouvernement. Les négociations qui ont eu lieu sous l'égide d'Emmanuel Macron puis François Bayrou ont montré que c'était un échec. Ni Macron ni Bayrou ne veulent céder quoi que ce soit. Bah, la gauche, elle dit OK, très bien. Ciao, bye, hein. Prétendent, c'est une question arithmétique, le NFP est arrivé premier, point. Ouais. Je note que tu n'as pas écrit à remporter les élections, point. Mais je note, tu as raison. Tu as raison de ne pas écrire ça. LFI avait donc raison. Non, t'as pas écouté ce que j'ai dit. LFI prétend avoir gagné les élections. C'est pas la même chose que LFI prétend être arrivé premier, parce qu'ils sont arrivés premiers, ils sont arrivés en tête, de manière relative. Le NFP est la première coalition en nombre de députés de l'Assemblée. Enfin non, c'est pas vrai ça. C'était vrai jusqu'à ce que les macronistes se mettent avec LR. Être premier, c'est pas gagner? Non. Non, pas automatiquement, pas nécessairement, pas systématiquement. la notion de victoire à une élection, la notion de victoire à une élection, c'est une notion qui est claire, mathématique, évidente, arithmétique, dès lors que vous avez un scrutin uninominal majoritaire. Par exemple, une élection présidentielle. L'élection présidentielle, c'est la plus facile des élections, c'est celle qu'on apprend aux enfants à l'école. On compte les bulletins qu'il y a dans l'urne, les deux premiers du premier tour passent au second tour, on fait un deuxième tour de scrutin, celui des deux qui a le plus de bulletins est élu. C'est bête, c'est méchant, il y a un gagnant, un perdant. Les enfants peuvent le comprendre. Néanmoins, il existe des élections qui ne consistent pas à élire un élu, mais à élire une chambre. Un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal, un parlement européen, une assemblée nationale, un sénat. Là, on a des types de scrutins qui varient, mais quand bien même, et indépendamment de la question de savoir comment est-ce qu'on compte les bulletins, il peut se trouver des situations dans lesquelles la notion de victoire et de défaite à l'élection sont des notions très relatives, pas évidentes. Il y a des compositions de chambres dans lesquelles c'est pas évident de dire qui l'a emporté sur qui, etc. Il se trouve que les élections législatives de juin 2024 nous ont exactement donné ce genre de chambre-là. Où vous avez une gauche à 200 sièges, un centre et une droite à 220 sièges et une extrême droite à 140 sièges. Personne ne peut prétendre avoir gagné. Mais ceci étant, il y a des positions qui sont des positions de force. C'est pour ça qu'il faut, typiquement dans ce genre de cas, apprendre à sortir des jargons extrêmement absolus pour entrer dans la granularité et la subtilité d'un rapport de force politique. Quand je dis que la gauche n'a pas gagné les élections législatives, je ne dis pas qu'elle a perdu. J'ai jamais dit qu'elle avait perdu. Je dis que la gauche n'a pas gagné les élections législatives. Par contre, je dis que la gauche est en position de force. La gauche est en position de force. Elle a 200 députés. C'est pas rien. C'est pas négligeable. C'est pas ridicule. Elle peut peser. Elle peut négocier. Elle peut obtenir. Elle peut prétendre. Elle a le droit. Mais par contre, je maintiens que le fait d'être arrivé premier aux élections législatives ne veut pas dire qu'on a gagné les élections législatives. Et ça, je le maintiendrai tout le temps, y compris le jour où Jordan Bardella arrivera en tête avec 200 députés. Vous allez tous bégayer. Moi, je garderai le même discours, je n'ai pas changé. Comment tu expliques que ce soit à chaque fois les mêmes têtes qu'on voit au gouvernement ? Eh ben, c'est parce que ça fait 7 ans que Macron est au pouvoir et qu'il commence à avoir un peu épuisé le vivier, là. La Ve République ne donne pas le mode d'emploi de ce genre de situation, c'est tout le problème, ça laisse Macron libre de faire ce qu'il veut. Il n'y a pas beaucoup de républiques qui donnent le mode d'emploi de quoi que ce soit dans le cadre d'une dispersion des forces à l'Assemblée nationale. Si c'était l'extrême droite à la place du NFP en juin, ces derniers auraient été les premiers à dire qu'ils n'ont pas gagné et qu'ils sont juste arrivés premiers. Ah non, je suis pas d'accord. Si l'extrême droite était arrivée premier en juin dernier, ils auraient chanté sur tous les plateaux télé qu'ils ont gagné les élections législatives. Et sur mon stream, vous auriez entendu exactement la même chose. Non, ils n'ont pas gagné, ils sont juste arrivés premiers, ça les place en position de force, ça ne veut pas dire qu'ils ont remporter les élections, etc. Je ne change pas ma manière de vous décrire les institutions en fonction de si j'aime bien ou pas les résultats des élections. C'est ça qu'il faut comprendre. Je suis désolé si ça vous fait chier quand je vous dis que la gauche n'a pas gagné les élections en juin dernier, mais c'est pas moi qui fais les règles et je fais pas en fonction de mon opinion. Et je changerai pas ma manière de vous le dire le jour où ça arrivera pour l'extrême droite. Il parlait du NFP? Ah oui, d'accord, du coup il disait la même chose que moi. Oui, c'est ça, j'ai compris, effectivement. Oui, c'est ça, exactement, oui, je suis d'accord avec toi. Si Jordan Bardella était arrivé premier, Jordan Bardella, il serait allé aux 20h de TF1 en train d'expliquer « j'ai gagné les élections, je dois être nommé Premier ministre », et toute la gauche serait en train de dire « non, il n'a pas gagné les élections, il est juste arrivé premier, il n'a pas le droit au pouvoir, comme ça, en claquant des doigts, etc. » Évidemment que ça serait passé comme ça. La gauche a pas gagné, mais avoir 200 députés est une victoire en soi. Du coup, j'en sais rien. Ça, si tu veux considérer ça comme une victoire, tu peux. Je trouve que c'est pas mal, 200 députés, c'est bien. Vu là d'où elle vient, la gauche, vu l'hégémonie des macronistes entre 2017 et 2022, 200 députés, c'est pas mal. Pas suffisant, il en faudrait plus, ce serait mieux. Mais 200, c'est pas négligeable. Hein. La gauche, elle est pas absente de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. La tradition républicaine ne veut-elle pas que le Premier ministre soit issu de la coalition arrivée en tête? Alors en fait, non. Ça paraît ça, je l'ai beaucoup lu, j'ai vu que ça a été un élément de langage à un moment, tout le monde le répétait, etc. Il n'y a pas de tradition républicaine qui dit que le Premier ministre arrivé en tête doit gouverner. La seule tradition républicaine qui existe, c'est que les Premiers ministres, ils ont une majorité absolue en fait. C'est aussi ça qu'il faut bien comprendre, c'est que on ne peut pas aller puiser dans l'histoire des trucs qui n'existent que depuis 2 mois. Jacques Chirac en 86, c'est pas la tradition républicaine qui veut qu'il devienne premier ministre. C'est juste qu'il a 300 députés, un truc comme ça. Fin de l'histoire, le mec il est premier ministre, on discute pas, on réfléchit pas. Donc non, il n'y a pas de tradition républicaine qui dit que la coalition arrivée en tête des élections législatives gouverne. Ça n'a jamais existé ce truc-là. La seule chose qui a existé, c'est une réalité politique de rapport de force, c'est que les camps avaient une majorité absolue. À l'exception de 88, où il y avait une majorité relative, mais c'était une majorité relative un peu bordélique avec les radicaux de gauche et tout. Je rentre pas dans le détail, mais... machin. Il y avait les macronistes en 2022 qui se sont retrouvés avec 245 députés. Alors pas suffisant pour avoir une majorité absolue, mais suffisant pour gouverner quand même parce que le groupe d'à côté, qui était les Républicains, acceptait de ne pas censurer Elisabeth Borne. Puis il y a la situation qu'on a depuis juin dernier. Est-ce que le Front Républicain était antidémocratique au vu de la situation de blocage actuelle? Alors, l'idée que le Front Républicain soit antidémocratique, ça c'est un truc c'est un argument qui est sorti par Marine Le Pen et par les frontistes à l'Assemblée nationale, qui consiste à dire que le Front Républicain, c'est un arrangement de partis politiques qui permet, qui vise à empêcher un parti d'avoir des députés. Et que dès lors, c'est antidémocratique. Le truc, c'est que Marine Le Pen considère que la seule chose qui compte en démocratie, c'est les bulletins dans les urnes et c'est les votes, etc. Or, le comportement des acteurs politiques, c'est démocratique. Le fait que Marine Le Pen fasse une alliance avec Éric Ciotti, c'est pas démocratique ou pas démocratique. Enfin, elle fait ce qu'elle veut, elle a le droit. Elle se démerde, elle présente les candidats qu'elle veut dans les circonscriptions qu'elle veut. Que les partis politiques se mettent d'accord sur des circonscriptions, c'est pas antidémocratique. Ça peut devenir antidémocratique si on arrive à une situation absurde, comme on l'a par exemple aux États-Unis, où aux États-Unis, il y a des circonscriptions qui sont tellement acquises à un parti que l'autre parti en face n'y présente même pas de candidat. Ça existe. Aux États-Unis, malheureusement, il y a des endroits où vous habitez dans des circonscriptions dans lesquelles la seule personne pour qui vous pouvez voter à chaque élection, c'est un républicain. Donc évidemment que les républicains gagnent triomphalement à chaque élection. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les démocrates ne prennent même pas la peine de présenter quelqu'un en face. Ça sert à rien. Elle est gagnée. Enfin, c'est bon. On n'en parle même pas, c'est pas un enjeu politique, etc. Donc voilà. Mais on peut pas dire, je suis désolé, hein, on peut pas dire qu'en France, on n'ait pas un large choix au premier tour entre des candidatures, quoi. Que ce soit à la présidentielle, où on a des candidats qui vont du communisme révolutionnaire jusqu'au néo-fascisme, en passant par toutes les nuances de gauche, de centre et de droite possibles. Voilà. Et les alliances électorales et les désistements font partie de la pratique démocratique. On ne peut pas forcer quelqu'un à se présenter à une élection. Donc non, je ne suis pas d'accord avec Marine Le Pen pour dire que le Front républicain est antidémocratique. Il manque un peu de choix à droite, je trouve. Entre les macronistes, les républicains, l'UDI parfois, Marine Le Pen, Éric Ciotti, Éric Zemmour. Ça va, hein. Ouais, Horizon, ouais. Alors je sais pas, ils se présentent pas à toutes les élections, ça dépend, après je sais pas où t'habites. Je sais pas où t'habites, mais effectivement... On veut un parti libéral progressiste, bordel. Bah ça te satisfait pas, Renaissance? À quand un parti libertarien en France? Ça a existé, hein. Ça a existé, hein. Il y avait Alliance Libérale, il y avait Alain Madelin à une époque aussi. T'étais peut-être pas né, mais c'était les années 90. Ils étaient moins branchés sur l'extrême droite que les libertariens américains. Parce que les libertariens américains, ils sont ultra libéraux économiquement, mais ils sont aussi extrêmement racistes, homophobes, anti-woke, etc. Machin. Parce qu'il y a un espèce de package aux États-Unis qui se fait avec les deux. En Europe, le libéralisme, ça dépend de sa version, mais a pas toujours été mariée avec le conservatisme. C'était le cas pour Margaret Thatcher, mais dans d'autres camps, non. Les libéraux économiquement, il y en a certains qui étaient même plutôt portés sur le progressisme, l'ouverture d'esprit, le mariage pour tous, la dépénalisation des drogues, etc. Pas tout à fait la même lecture du truc, quoi. Je rêve d'un Milei en France. Milei? Le taré là, qui s'est retrouvé élu président en Argentine, avec sa tronçonneuse là? Quel bonheur. Vous savez, la France, c'est un pays dans lequel l'État intervient fortement dans l'économie depuis la Renaissance. Ouais, le colbertisme en grande partie, ouais. Non, non, ouais, c'est pas tant un truc de gauche, de droite, un truc contemporain, etc. L'État intervient dans l'économie en France de manière assez importante. Alors, ça veut pas dire que c'est du dirigisme. La France n'est pas un pays soviétique. Je sais que je vais pas être d'accord avec des partisans de David Lisnard, etc., qui m'expliqueront que si, 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 la France est communiste, la France, l'État est omnipotent, machin, etc., elle peut tout faire. Bon, je suis pas du tout d'accord. On n'est pas dans une économie administrée. Voilà, je suis pas d'accord avec ça. Mais pour autant, oui, l'interventionnisme en soi. Pas d'économie administrée, pardon. Non. Non, non, on vit pas dans un pays à l'économie administrée, non. On est le pays avec le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé en Europe. Ouais. Rien à voir avec l'administration, mais ouais. Enfin, avec l'administration de l'économie. Les libéraux, dès qu'un truc est réglementé, l'économie est administrée. Oui, non, bien sûr. Et ça, c'est la grande blague de la simplification. À chaque fois que tu as un Premier ministre volontariste qui dit, ouais, on va simplifier les charges, machin, les charges qui pèsent sur les entreprises, les procédures et tout, on va simplifier les procédures. En fait, tu te rends compte que les procédures, on les a mises pour une très bonne raison. C'est quoi l'administration de l'économie? L'économie administrée, c'est ce qui existait par exemple en Russie soviétique. C'est un système politique dans lequel l'État dirige les entreprises, les industries, les productions, etc. Et l'État fixe des quotas, l'État fixe des objectifs. Et le patron de l'usine, il doit respecter des quotas qui sont fixés par l'État. Donc à la fin de sa semaine de production, il envoie des papiers, donc ça c'est la bureaucratie soviétique dans toute sa splendeur, il envoie des papelards tamponnés pour montrer qu'il a produit exactement la quantité d'acier qui était réclamée par l'État pour ce mois-ci, en application du plan quinquennal voté par le Soviet suprême de l'Union soviétique. Voilà, c'est ça une économie administrée. Et si tu veux ouvrir une entreprise, il faut demander l'autorisation à l'État. Et encore, là, je suis sympa. Donc ça n'existait pas en Russie soviétique. Mais imagine si la France était un pays à l'économie administrée. Si tu veux créer une chaîne Twitch, tu dois remplir un formulaire auprès de la préfecture pour demander l'autorisation d'émettre une émission. Tu dois décrire ton projet, tu dois déposer ton budget. Ensuite, il y a une administration départementale qui vise à l'attribution des chaînes Twitch, qui doit statuer pour t'autoriser ou pas à créer ta chaîne et à diffuser sur Internet des trucs et des machins. C'est ça une économie administrée. Tu dois demander l'autorisation à l'État pour faire n'importe quoi, quoi que ce soit, n'importe quelle activité, etc. En gros, c'est ce qu'on a avec les assos. Pas du tout. Pas du tout. La loi de 1901 crée un régime de déclaration préalable, pas d'autorisation préalable. J'ai loupé l'annonce, il y a qui exactement au gouvernement? Bah, regarde l'introduction du stream, tu verras. Tu verras, tu verras. On appellerait ça l'ARCOM. Alors non, l'ARCOM s'occupe des attributions de créneaux pour la télévision et la radio. Parce que les règles d'attribution des canaux de diffusion sont réglementées sur les ondes électromagnétiques. Tu ne peux pas autoriser plusieurs stations radio à émettre sur la même fréquence. Sinon, les deux fréquences sont brouillées et personne ne capte rien. Donc pour éviter les piratages de fréquences et les enchevêtrements, on a créé une autorité publique, qui s'appelait le CSA avant, qui s'appelle l'ARCOM maintenant, qui est chargée d'autoriser l'utilisation des créneaux sur les bandes d'émission. C'est pour ça que l'ARCOM ne s'occupe que de la télévision et de la radio, et ne s'occupe pas de la presse écrite et d'Internet. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mesure d'égalité et d'équité de temps de parole pendant les campagnes présidentielles sur Internet et dans les journaux. Parce qu'il n'y a pas d'attribution de canaux par l'ARCOM. Ouais, il y a Manuel Valls au gouvernement pour ceux qui ont raté. Vous allez avoir le plaisir de retrouver Manuel Valls. Sur les bancs du gouvernement à l'Assemblée nationale. Manuel Valls qui répond aux questions au gouvernement. Ça, c'est attendu, ça. Non, c'est pas une blague, hein, c'est pas une blague. C'est tout ce qu'il y a de plus officiel. Manuel Valls est membre du gouvernement de la République. Alors, pour combien de temps? Ça, c'est la question. Je vous la pose. J'en sais rien. On verra. Mais ouais. Non, Manuel Valls, hein. Le Manuel Valls, en plus, hein. On s'est pas foutu de votre gueule, hein. On n'est pas allé chercher un homonyme ou je sais pas quoi. Non, 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 non. On vous a sorti le Manuel Valls. Je vais y aller, les copains. C'était le petit stream surprise de la composition du gouvernement. Merci à vous d'avoir été là. Je vous fais des bisous. Passez un bon Noël. Profitez bien. Moi, je vais peut-être faire quelques streams un peu à la Zub. Je reste à Paris en vacances. Mais je pense que je vais faire du Flight Simulator détente. Voilà, tranquille. Des bisous. Merci d'avoir été là. Bonne soirée, à plus. Ciao, ciao.